Werner Rentfer. Hannebarde. Chapitre 5. On vivait bien par le bourg, on vivait bien depuis la fête de l'été, qui était devenue la fête à Hannebarde. On disait que c'était la plus belle chose qu'on ait vue dans le bourg. On l'avait déjà dit, on le répétait, on vivait bien. L'été était beau. Jamais le ciel n'avait été si constamment bleu, si pur. Le soleil, pour une fois, se montrait dans sa vraie gloire. Il tombait tout droit, comme une flèche, dans les vitrines des magasins. Le pharmacien sortait de sa pharmacie, baissait le store, le relevait, le baissait de nouveau. Trois fois par jour, il recommençait, cherchant le moyen de protéger ses glycérines contre le feu du ciel. Il n'y avait rien à faire. Le soleil trouvait les joints, coulait comme de la lave, fondait les peaux et les pommades. Le pharmacien, ami de la nature, en attrapait des plis au front. Mais le chapelier, ami de la bonne chère, se déridait dans son coin de porte. C'était lui et sa vitrine qui bénéficiaient de l'ombre protectrice que le pharmacien cherchait en vain pour son étalage à obtenir de son store. Et c'était une ombre délicieuse, venant d'un store si bleu et si perfectionné. Sans compter que les chapeaux de paille d'Italie se vendaient si bien cette année. Le pharmacien disait qu'on vivait dans un four, le chapelier dans une grotte, et tout rentrait dans l'ordre après ces paroles vengeresses. On vivait bien. Les laitiers, les facteurs étaient en avance d'une heure sur l'horaire. Le matin, tant la fraîcheur de l'aube leur faisait oublier montres et ponctualité. Les laitiers avaient tant de majesté qu'on les aurait pris pour des dompteurs de fauves à côté de leurs chiens. Les facteurs ouvraient le col de leur veste, s'épanouissaient comme s'ils n'avaient plus jamais apporté que des lettres d'amour ou d'amitié. On vivait bien. Si un grain de poussière s'élevait dans la grand-rue, la roseuse publique accourait, le noyait dans un jet triomphant. Si un enfant avait de la peine à avancer sur sa trottinette, un agent de police accourait, le soutenait, le réconfortait, confondant soudain son métier orgueilleux avec celui des plus humbles sœurs de charité. Les cantonniers, les ouvriers du gaz, les balayeurs avaient l'air de faire vraiment partie de la voirie, des trottoirs et de la rue. Jamais ils n'avaient fait la toilette du bourg avec autant de facilité, de naturel. Si un objet tombait d'une fenêtre, il l'attrapait, le rapportait. Si une porte s'ouvrait, il s'offrait pour la tenir. Si un bouquet de lilas se penchait sur la rue, il le relevait et le respirait. Il s'accoudait aux vérandas, aux perrons, semblant vouloir aider les gens à goûter la belle journée qui venait. On vivait bien. Les hirondelles volaient haut. C'est à peine si on pouvait lire encore les pronostics qu'elles traçaient en caractères minuscules dans le ciel, qui les absorbait aussitôt comme une page qui boit l'encre. À 5 heures du matin, le sergent-major de gendarmerie en retraite se levait. Lui, qui n'avait jamais réussi à s'éveiller avant 9 heures, au temps de son service actif. Il s'asseyait devant sa fenêtre et se rasait. Puis, il regardait. Il regardait dans la mansarde d'en face, où la jeune servante du Lion d'Or sortait toute nue de son lit, car il faisait chaud la nuit sous les toits, et s'élançait vers son lavabo pour se débarbouiller, car l'eau était fraîche le matin. Le ciel était rose sur le bourg, et la jeune servante encore plus rose dans la mansarde. C'est vraiment ce qu'on appelle un bel été, murmurait le sergent-major. Et il continuait à regarder. Après le déjeuner, à l'heure du café, encore ébloui par la vision de la double aurore de son lever, il racontait à ses amis du Lion d'Or qu'on ne savait vraiment plus si le ciel, le matin, ressemblait aux femmes ou si les femmes ressemblaient au ciel. Ce que les amis pouvaient d'ailleurs vérifier sur l'heure, car des dames passaient justement se promenant à 2 pas de la tonnelle du Lion d'Or. Elles passaient en effet dans une confusion de roses, de bleus et de blancs qui expliquait le daltonisme du sergent-major. Mais dès que le soir tombait, la confusion n'était plus possible. On pouvait de nouveau distinguer le bleu du ciel du bleu des robes et le rose des visages du rose de l'aurore. Mais un autre phénomène se produisit, auquel on ne s'attendait pas, et qui, lui, exigeait une vue excellente pour y croire. Madame Pluche, la femme du percepteur, se promena en robe zinzolinette coquelicot. Or, 5 minutes après son passage, on vit apparaître Madame Pirac, la femme de l'adjoint au maire. Elle était également en robe zinzolinette coquelicot. C'était la première fois qu'on voyait ces 2 vieilles ennemies habillées exactement de la même façon et de la même couleur, l'une portant le rouge quand l'autre arborait le blanc, l'autre étant hyacinthe quand l'une était en saumon. « Il n'y a pas que moi qui vois de travers, » concluait le sergent-major. « Il faut vraiment que l'été soit beau pour que des choses pareilles arrivent. » On vivait bien. Soudain, tout paraissait lourd, étouffant, et le bourg languissait vers les 4 heures de l'après-midi, comme un désert. Soudain, tout rafraîchissait, la brise se levait et les lilas embaumaient de nouveau. Soudain, les grillons se taisaient, contenaient leur ivresse, et l'on voyait le chimiste communal, profitant de cet instant de silence, sortir dans son verger et se mettre en bras de chemise. Débarrassé pour une fois de son gilet blanc et de sa redingote verte, il se laissait choir dans l'herbe, trouvant, sans le vouloir, la vraie recette et la vraie formule du bonheur. Soudain, il faisait clair, il faisait tendre. Le coq de Mademoiselle Victorine, l'institutrice qui avait été gouvernante en Russie, interrompait sa sieste dans la cour. Et, s'approchant, le col cravaté de rouge de ses 3 poules, et poussait un cri, fausse alerte. Le cri, étouffé par l'été, partait mal, mourait en gloussement, et c'est juste s'il arrivait à ébranler la faible coccinelle qui dormait sur un brin d'herbe. Soudain, tout devenait bon, limpide. Pas moyen de retrouver sur le visage des Gatz et des Goth, les deux plus grands propriétaires d'immeubles, ces traces de haine qui dénotaient la virulence des rivalités familiales et d'intérêts. Sur le mur mitoyen qui séparait les demeures des deux familles, les capucines pouvaient de nouveau croître, les Gatz ne manquant pas de les arroser le matin quand les Goth oubliaient de les couper la nuit. Les Chaumin, aînés et jeunes, qui tenaient les deux pâtisseries concurrentes, s'empruntaient des chocolats et se passaient leurs vendeuses. Le maire avait fait la paix avec son beau-frère, le colonel d'artillerie, auquel il envoyait, pour les nettoyages hebdomadaires, sa servante surnuméraire. Et le secrétaire municipal, délivré de l'humeur tatillonne de son patron rasséréné, somnolait, assis à califourchon sur son bureau, en écoutant les airs méridionaux des ouvriers peintres qui badigeonnaient les façades de la mairie. On vivait bien. La route cantonale, abandonnée à tous les automobilistes, se perdait dans la verdure. L'agent voyé la suivait comme un tunnel, mais chaque borne exposée au soleil, il avait une vue qui donnait sur la campagne. Il s'y arrêtait un moment, espérant guérir ses chagrins d'amour en regardant les paysans rentrer le foin. Quand il repartait, la pierre était aussi chaude que son cœur. On vivait bien. On avait, pour quelques jours, donné congé au personnel et aux ouvriers des usines, des ateliers. Les ouvriers partaient pour la montagne avec leurs familles, s'étendaient sous les sapins, pique-niquaient sur l'herbe et rentraient le soir, bronzés par le grand air. Les patrons, les magistrats, en profitaient pour promener leurs dames dans les hortensias de leur chalet rustique. Seul, le notaire Jumelin, trop conscient de ses intérêts, continuait à recevoir dans son alpage les clients paysans qu'il abreuvait de vins énergiques. Soudain, tout devenait plus léger, tout chantait. Cette polémique sur la grammaire, qui avait duré tout l'hiver et qui mettait aux prises les deux maîtres de français de l'école secondaire, disparut. Et le journal local fut débarrassé de ses fautes d'orthographe. Parfois, un nuage apparaissait à l'horizon, disparaissait de nouveau, et ce n'était rien qu'une fausse alerte, comme le cri du coq de Mademoiselle Victorine. Mais, réveillé par ce signe des anciens temps, le maître de mathématiques installait son télescope sur le toit de sa maison, qu'il avait exprès fait bâtir plat, et cherchait à calculer la vitesse de la fuite du faux nuage vers l'infini. Ses amis venaient le surprendre le soir, au milieu de ses logarithmes, pour avoir le plaisir de regarder la lune d'un peu plus près. On vivait bien. On vivait vraiment, comme il aurait fallu pouvoir toujours vivre dans le bourg. Mais ceux qui vivaient encore le mieux de tous, c'étaient Hannebarde et Bridille. Hannebarde découvrait le sens des choses à chacun de ses pas, et il s'appliquait pour en exprimer la splendeur à mille sciences vieilles comme le monde. Il redécouvrait, comme s'il avait été le premier botaniste, le premier astronome, la forme de chaque feuille, la couleur de chaque étoile, le premier géologue, la structure des roches, le mouvement des terrains, le premier aviateur, la pesanteur de l'air, la légèreté du vol des hirondelles. Et Bridille, à ses côtés, devenait belle, grandissait. Il se voyait souvent. Bridille, montant du bourg pour s'élancer dans les Saint-Foins, Hannebarde, descendant de sa forêt pour retrouver la douce présence dont il avait besoin. Parfois, Hannebarde, comme un insecte trop chargé de pollen et de soleil, s'endormait à l'ombre des blés une minute. Quand il se réveillait, Bridille lui racontait le rêve qu'il avait fait. Parfois, C'est Bridie qui rêvait, et Annebarth voyageait avec elle dans un monde qu'il comprenait aussi bien que sa colline. Parfois, Bridie n'était plus Bridie. Elle était le ruisseau blanc qui courait entre les herbes, le flot rose qui s'épanchait dans les feuilles. Parfois, Bridie était tellement Bridie qu'on n'aurait eu qu'à toucher son ombre sur le gazon pour la comprendre et l'entendre vivre. Bridie devenait si transparente que Annebarth lisait en elle comme dans un matin frais. Quand ils avaient gravi la montagne, Bridie s'asseyait dans l'étain, les anémones. La montagne n'avait jamais eu de parure plus vive ni plus fraîche qu'elle. Quand ils allaient par les bois, chaque églantine semblait épeler son nom. Ils allaient avec au cœur une simplicité merveilleuse et les yeux remplis de toute la lumière du monde. L'été allait vers sa fin, quand un jour, Bridie s'approcha de Annebarth. « Tu sais ce qui me ferait plaisir, » dit-elle. « Que le beau temps dure toujours, » répondit-il. « Bien sûr, Annebarth, mais quoi encore, devine. »« Je ne puis, » dit. « Eh bien, ce qui me ferait plaisir, c'est un bateau. »«
Un bateau ?»
« Oui, un bateau, pour aller sur l'eau. Je serai bien sur un bateau. Je me pencherai, je plongerai mon bras dans l'eau et j'attraperai des truites. Tu ne pourrais pas m'en faire un, Annebarth, de bateau ?»«
C'est que, tu comprends, je n'en ai jamais vu. Je ne sais pas comment c'est fait. »«
Ah bon, je vais te montrer. Regarde, je le dessine. »
Elle le dessina.
Annebarth regarda attentivement le dessin, réfléchit tout un jour et toute une nuit, puis se mit à fabriquer son bateau. Il le termina en peu de jours. Ce n'était qu'un bateau de paysan, plutôt une sorte de radeau qu'un bateau. Mais avec sa voile rouge et son gouvernail, il pouvait très bien faire l'affaire. Un soir, ils descendirent la colline pour le mettre à l'eau. Annebarth traînait le bateau sur un char et Bridie dansait dans l'herbe en marchant. Ils mirent le bateau à l'eau et s'embarquèrent. Annebarth hissa la voile, leva les amarres et prit le gouvernail. L'embarcation partit au fil de l'eau. Bridie, continuant à danser, la faisait pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Puis elle s'agenouilla, plongea la main dans l'eau et en retira, à la place d'une truite, un reflet de ciel. Annebarth se tenait assis, attentif à la manœuvre. Chacun de ses gestes avait une gravité marine. Le soir était d'une limpidité cristalline. Il dorait, rosissait les deux bateliers improvisés. Il prenait l'aspect de ces personnages qu'on voit dans les gravures anciennes, quand un crépuscule légendaire les met en relief. Ils traversèrent le bourg, toute voile au vent, et quand ils eurent traversé le bourg, ils s'élancèrent vers la plaine. Ils se croyaient seuls et triomphants. Ils eurent juste le temps de faire un signe d'adieu au clocher de Annebarth, qui, au loin, semblait leur jeter un encouragement. Ils allaient. Mais, tandis qu'ils avaient passé le bourg, des têtes s'étaient penchées aux fenêtres, des yeux s'étaient ouverts pour les regarder passer. C'était la première fois qu'on voyait un bateau sur la rivière. Et sur le bateau, il y avait une voile rouge, incompréhensible. Et sous la voile rouge, un Annebarth, plus bronzé qu'une statue, une Bridie, plus lisse que la lumière du soir. Alors, ce qu'on n'avait jamais vu, on le regarda, et on le vit. Et ce fut soudain par le bourg, comme si le bel été n'avait jamais existé, comme si la vie qu'on vivait bien n'avait jamais été la vraie vie. Du fond du bourg, de bas en haut,
de loin en large, du fond de cet été illusoire, les têtes, redevenues obscures, émergèrent. Les yeux, redevenus anonymes, brillèrent. Il y en avait qui n'avaient jamais soupçonné que l'eau de la rivière était faite pour porter un bateau. Et ils s'approchèrent de la rive à pas prudents, dans l'intention de vérifier si c'était possible. Il y en avait qui, malgré le soleil et le beau ciel bleu, avaient continué à vivre cachés au fond de leur cuisine ou de leur soupente, et ils sortirent de leur cachette. Il y en avait qui n'avaient jamais pensé qu'on pouvait être deux sur un bateau, et ils y pensèrent. Seul, Annebarde et Bridie ne pensaient rien, ne voyaient rien. Ils descendaient doucement le cours de la rivière, prodiguant leur sourire aux caresses de la brise. À l'endroit où la rivière fait un coude avant de se jeter dans les gorges et se diriger par là vers le lac, de l'autre côté de la montagne, ils arrêtèrent leur randonnée. Annebarde attacha une corde au bateau et le remorqua de la rive. La nuit s'avançait. La lune se leva. Annebarde tirait sur sa corde avec sa force de sonneur et marchait d'un grand pas rythmé au bord de l'eau. Bridie tanguait encore un peu, comme si elle avait été le bateau lui-même. Elle était nu-tête, ses cheveux épars dans le vent. Et la lune qui brillait maintenant, comme elle avait sans doute dû briller il y avait des milliers d'années, au temps des premiers lacustres, les accompagnait à travers les ormes, avec une intelligence presque humaine. Mais tandis qu'ils marchaient ainsi, des ombres étranges se détachaient de la rive opposée, des vergnes et des roseaux. Ce n'étaient pas des ombres de martres, ni de poules d'eau, ni de pinsons attardés dans une dernière chasse aux vermisseaux, ni même celles des ormes, des saules devenus soudain mobiles. C'était bel et bien des ombres d'hommes et de femmes, des hommes et des femmes qui avaient tendu la tête hors des fenêtres, qui avaient voulu vérifier la qualité inconnue de l'eau, qui avaient regardé et qui avaient vu. C'étaient des ombres qui semblaient singulièrement élastiques et troublantes. Elles s'enfuyaient en bondissant dans la campagne. Chapitre 6. Et tout changea par le bourg. Tout changea. Une sorte de rage ou de lèpre, on ne savait pas quoi au juste, commençait à circuler, se mêlait à l'air qu'on respirait, s'infiltrait dans le sang, empoisonnait les moindres regards et les moindres mots. Cela venait, on ne savait d'où, peut-être d'un lointain passé de honte et d'instinct refoulé, et qui maintenant remontait à la surface, peut-être d'une longue tradition de préjugés hypocrites, et que la poussée des passions faisait craquer soudain de toutes parts. Cela venait à pas de loup, le long des jardins bourgeois, des trottoirs bien entretenus, des allées ombragées. On en pouvait aisément déceler la trace, mais on ne disait rien, on attendait. Et tout d'un coup, cela vous sautait à la gorge et ne vous lâchait plus. Peu à peu, on se sentait comme un abcès dans le corps, comme une boue dans l'âme. Mais on se taisait. Ou, quand on parlait encore, on parlait à peine, on chuchotait. On ne vivait plus au grand air, on se retirait dans les coins, dans les greniers, dans les mansardes, on s'accoquinait dans les cuisines le soir tard, et le vin coulait pour calmer la fièvre qui vous tenait. Il y en avait qui, chaque fois qu'ils pensaient à l'amour, n'éprouvaient plus qu'un plaisir mêlé d'horreur. Il y en avait qui tiraient leur Bible en avant et passaient des nuits entières à la feuilleter d'un doigt furtif et clandestin. Il y en avait qui marchaient des heures entières, mais à la faveur de l'ombre, à pas de velours, la tête baissée, rongée par une curiosité mystérieuse. Ils inspectaient les bois, les sentiers, les champs de blé, les coins de mousse, en faisant semblant de chercher des champignons ou un trésor perdu. L'été était par terre. On ne voyait pas que le ciel continuait à être bleu. On ne sentait plus à l'aube que la brise vous caressait encore. On vivait absent ou caché. Les jeunes se méfiaient des aînés, ne leur adressaient plus la parole que la tête baissée. Des vieux se promenaient à la tombée de la nuit dans une carrière désaffectée et on ne savait pas ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Un inconnu se précipita en plein jour en chemise sur la place publique et se mit à hurler comme un damné. Il tomba à la renverse sur le pavé. Et quand on le releva, il était mort. C'est alors seulement qu'on put l'identifier. C'était un vieux garçon, connu pour ses attentions saugrenues auprès des petites filles. On redoubla de surveillance auprès des enfants. Les jeunes filles devaient passer leur soirée dans leur chambre pendant que leur famille tenait des conciliabules secrets au salon sous une lumière basse. Les grandes personnes avaient d'étranges flammes dans les yeux. À la dérobée, elles échangeaient des regards luisants. De temps à autre, dans le silence des chambres, un gros mot éclatait dans la profondeur d'une gorge et y restait pris comme un os. Beaucoup de gens qui avaient pris l'habitude de prier avant de s'endormir priaient le diable plutôt que Dieu. D'autres, sans motif apparent, avaient des rougeurs subites et se cachaient le visage dans leurs mains. D'autres encore avaient des colères violentes et rendaient pour un rien la vie pénible à leur entourage. Comment dire tous les comportements saugrenus ou non des habitants du bourg pendant cette période de leur histoire? On se sentait bouleversé dans ses habitudes les plus familières, tenu en haleine par quelque chose de plus fort que soi, par cette maladie, lèpre ou rage qui s'était répandue. Elle s'était installée en vous par le dedans et devenait toujours plus virulente. On ne pourrait donc plus l'arrêter. Encore, si on avait pu expliquer ce que c'était exactement. Mais on ne pouvait pas. On se sentait le cœur en déroute devant toute tentative de réflexion. On se sentait la tête molle dès qu'on essayait de penser vraiment. Et tout allait par le bourg à la dérive, comme si jamais plus on ne devait se retrouver et se reprendre. Puis, un jour enfin, il y eut du nouveau. Il y eut la grande assemblée de l'Union pour l'hygiène morale de la cité. Les assemblées de cette société réunissaient d'habitude une demi-douzaine de personnes bien intentionnées, mais qui n'avaient pas beaucoup de prestance physique aux yeux de la population. Elles avaient eu des malheurs dans leur vie et s'efforçaient de compenser par des principes intransigeants tout ce qu'elles avaient de déficitaire dans leurs pauvres membres estropiés ou leur sang trop pâle. Mais maintenant, l'assemblée avait attiré des centaines de personnes, et c'est devant une salle comble que le président de l'Union, un petit homme frisé comme un agneau, ouvrit la séance et fit l'exposé de son objet. Jamais le président n'avait eu l'occasion de parler devant un si nombreux auditoire. Aussi rayonnait-il littéralement. Son teint, nourri de pommes de terre à l'eau et de café au lait, car sa table était frugale, était monté subitement de plusieurs tons et prenait la coloration d'une tomate mûre. Et son éloquence timorée, affolée par une aubaine si inespérée, s'élançait d'un seul coup à la conquête de la raison. « Vous savez pourquoi vous êtes ici, » disait le président, « vous le savez. Mais je n'insisterai jamais assez pour vous rappeler que j'ai un devoir principal à remplir. Et ce devoir, c'est de vous dire et redire que nous avons parmi nous, non pas dans cette salle où il n'y a que des honnêtes gens, mais parmi nous, dans le bourg considéré comme une grande famille, un homme, hélas, qui nous a indignement trompés. Un homme auquel nous avions eu la mansuétude de faire une place agréable et confortable parmi nous, auquel nous avions accordé, en plus de notre confiance, bien des faveurs. J'en pourrais aisément énumérer quelques-unes, et non des moindres, à quoi bon ? Cet homme nous a trompés. Le scandale est là, qui risque de déconsidérer notre honnête cité et ses habitants. Ne croyez pas que j'exagère. Déjà, les journaux insinuent des choses et l'on nous regarde, des villes et des villages voisins, d'un œil malsainement curieux. Le scandale est là. Le laisserez-vous grandir, empoisonner les cœurs et les esprits ? Oh, citoyens de ma ville, réagissez, sauvez la cité de ce scandale indigne de son bon renom. Père de famille, pensez à vos enfants. Marie, pensez à vos chastes épouses. Fiancés, pensez à vos futures femmes. Ici, le souffle de l'orateur expira pour un moment, car son émotion était au paroxysme. Il s'arrêta de parler, s'essuya le visage où la sueur coulait à grosses gouttes. Puis, après avoir avalé un verre d'eau, il reprit. « Cet homme, je ne vous en dirai pas le nom. Il est sur vos lèvres et vous le connaissez tous. Mais ce que nous nous proposerons de faire au sein de notre union, c'est de réunir les preuves de sa trahison et de sa faute, les preuves matérielles surtout, car les preuves morales, nous les avons. « Des preuves !» cria quelqu'un dans l'assemblée. « En voici !» L'homme qui avait interrompu l'orateur se leva et s'avança vers le président. Il déposa sur le bureau divers objets hétéroclites, dont une barrette à cheveux de petit modèle, item. Un minuscule mouchoir de poche brodé aux initiales de bébé, item. Un mouchoir de poche très grand à carreaux rouges, marqué H. D'autres hommes se levèrent et vinrent déposer qui un ruban rose, qui une blague à tabac, qui une ceinture de toile. On commençait à comprendre pourquoi des chercheurs mystérieux avaient fouillé les forêts et les sentiers. Le président remercia ses citoyens pour leur bonne volonté. Les preuves matérielles, vous le voyez, commencent déjà à abonder. Nous en réunirons de suffisamment convaincantes pour pouvoir qualifier et stigmatiser le coupable comme il se doit. « C'est un satyre !» cria brutalement une nouvelle voix. Ce mot fit l'effet d'une bombe sur l'auditoire, et le président le premier en reçut comme un choc qui lui coupa la parole pour un bon moment. La bombe éclata et déchaîna le tumulte. Des injures mêlées à des rires gras s'élevèrent. On tapait sur les tables. Une femme s'évanouit et il fallut l'évacuer. Le tumulte, un instant apaisé par cet incident, reprit de plus belle. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit et que sur le seuil parut Annebarde. Depuis quelque temps, Cherbet, bien au courant de ce qui se passait dans le bourg, avait cherché à l'informer avec tous les ménagements possibles. Il dut finalement le rendre attentif au bruit qui courait. Il parlait de le sauver avant qu'il ne soit trop tard. « Sauver quoi ?» dit Annebarde. « Il n'y a rien. » « Fais attention, protège-toi. Tu ne te rends pas compte à quel point ils sont montés contre toi. On dirait qu'ils sont enragés. »« Eh bien, je les attends. Ils ne viendront pas, mais ils réussiront à te jouer un sale tour. Sois prudent et surtout ne descends pas le soir de l'assemblée. » »« Au contraire, je descendrai. Puisqu'ils ne viennent pas, c'est moi qui irai. » Jusqu'au dernier moment, Cherbet chercha à dissuader son ami. Rien n'y fit. Annebarde, le moment venu, descendit la côte et se rendit à l'assemblée. Il se dressa un long moment, immobile dans l'encadrement de la porte, tenant sous son regard l'auditoire surpris. Le tumulte avait cessé instantanément. Les gens s'attendaient à tout, sauf à voir paraître Hannebard. Il semblait frappé de paralysie. Hannebard traversa la salle et gagna la tribune. « Que me voulez-vous » dit-il. « Parlez. Je suis venu ici pour avoir des explications. » Un coup de sifflet l'interrompit, puis une voix tonna, goguenarde et rude à la fois. « Des explications ! Il veut des explications ! Vous voyez pour qui il se prend, monsieur le satyre ?» Alors, l'assemblée se déchaîna. Toute la rage secrète qui dévorait les âmes depuis des jours se répandit à la surface. Les pensées rentrées, les colères contenues éclatèrent sans contrainte. On criait « Hors d'ici, au poteau, port !» Tout le monde était debout et gesticulait. Un groupe d'énergumènes s'élança les poings tendus dans la direction de la tribune. Les femmes poussaient des cris stridents. Il fallut que le président se fasse assister par la police, installée discrètement dans une salle voisine. Hannebard, qui s'avançait déjà, lui aussi, à la rencontre de ses adversaires, se rendit rapidement compte de l'inutilité de sa résistance. On le fit sortir par une porte dérobée. Dès qu'il eut disparu, la foule se calma. Le président reprit ses sens et les auditeurs leur place. Et la séance put continuer. Chapitre 7. Hannebard regagna rapidement sa demeure et se mit au lit. Il essaya de dormir. Le sommeil ne venait pas. Il se leva, se rhabilla et sortit. Dehors, il faisait chaud, lourd. Le temps se gâtait. De cet été trop longtemps beau, de ces nuits trop invariablement sereines, un orage devait venir, qui ne présageait rien de bon. De gros nuages bas se traînaient à la lisière de la forêt. L'air était étouffant. On respirait mal. Hannebard s'engagea dans la forêt, au hasard. On ne distinguait rien, un pas devant soi. La nuit était noire comme de l'encre. Hannebard, en marchant, faisait rouler des cailloux, craquait des brindilles. Il tâtonnait, marchait comme il pouvait. Par moments, un silence lourd, torride, énervant, l'environnait. Il s'enfonça aussi rapidement qu'il put, dans le noir, dans l'inconnu, luttant, en pressant le pas contre la torpeur qui l'envahissait. Il se heurtait aux troncs, aux broussailles, s'arrêtait, repartait. Il glissait dans un ravin, le remontait. Le bruit de ses pas, de ses chutes, était étouffé aussitôt sous les branches. Il avança encore, alternant avec les moments du silence qui lui pesaient sur la poitrine, des plaintes d'oiseaux s'échappaient des nids. Les oiseaux aussi devaient avoir de la peine à s'endormir dans une atmosphère si oppressante. Le cri d'une chouette domina un instant la nuit. Hannebard frissonna. Quel drôle de cri ont les chouettes quand on ne voit rien que du noir autour de soi. Heureusement, Hannebard semblait avoir trouvé une échappée libre de végétation et pouvait marcher un peu mieux. Il devait se trouver sur un coin de pâturage et pourrait le traverser aisément. Une vieille histoire lui remonta à la mémoire. Celle du Schinder Hanne, que son père lui racontait quand il était petit. Le Schinderhannes était un immense vieillard à barbe blanche qui marchait des nuits entières dans la montagne. Il ne pouvait jamais s'arrêter de marcher, comme le juif errant. Quand les enfants désobéissaient à leurs parents, il les mangeait tout cru pour les punir. Quand ils étaient sages, il les prenait dans ses bras, les emmenait sur les plus hauts sommets et leur faisait toucher la lune. En hiver, par les grands froids et pour Noël, la barbe de Schinderhannes se changeait en sucre d'orge et on pouvait la manger si on s'était bien conduit. Si on s'était mal conduit, la barbe se changeait en glaçon. Hannebard pensa que c'était lui maintenant le Schinderhannes. Comme lui, il marchait la nuit sur la montagne. Comme lui, il avait une barbe. La différence était seulement qu'au lieu de manger les enfants, Hannebard voulait les changer en oiseaux ou en fleurs. Il aurait même aimé pouvoir changer les hommes en agneaux et le bourg en jardin du paradis. Il ne changeait rien pourtant, il marchait. Il était de nouveau entouré d'arbres invisibles et de rochers. Tout à coup, tandis qu'il pensait encore à son histoire, une branche craqua, se brisa sur un arbre et lui tomba sur la tête. Hannebard se recula, soudain effrayé. Il tâta de sa main l'endroit de son crâne où la branche l'avait heurté et sentit quelque chose de tiède qui coulait dans ses cheveux. C'était du sang. Du sang ? Hannebard n'était que légèrement blessé, mais au contact de ce sang tiède qui coulait sur sa tête, il se sentit secoué par une peur terrible. Jusqu'à présent, il n'avait jamais connu ce sentiment. Il ne savait pas ce que c'était. Maintenant, brusquement, il le savait. C'était quelque chose de terrible qui le secouait comme un sac vide. Il se sentait d'une faiblesse inouïe, incapable de retrouver sa raison. Il avait peur de tout, de la nuit, des hommes, de la forêt, de lui-même. Toute cette oppression qui était dans l'air, tout ce vertige qui tournoyait dans le silence était en lui. Il tremblait de tous ses membres, suait à grosses gouttes. Il voyait le sol s'ouvrir sous ses pieds, le ciel lui tomber sur la tête, les arbres se mettre en marche pour l'écraser. Chaque remuement de feuilles, chaque plainte d'oiseaux, chaque craquement de brindilles le déchirait. La montagne lui paraissait peuplée d'angoisse et d'épouvante. Il avait peur de sa propre respiration et se sentait ouvert comme une blessure, dans un abandon indicible. Il voyait les hommes venir sur lui, par bandes, par foules, par armées, avec des bonds de léopards et de tigres. Il les voyait avec des prunelles féroces, des bouches à crocs, des pattes à griffes. Il les voyait l'entourer, le serrer de près, le dévorer. Leurs lippes pendantes et leur souffle empoisonné étaient sur sa figure. Il sentait leurs dents courbes s'enfoncer dans sa chair. Il poussa un hurlement et se mit à courir. Il se sentait aussi misérable, aussi nu, aussi désarmé que l'enfant qui vient de naître. Alors, subitement, pendant qu'il courait, une lueur monta dans la nuit, entre les arbres. Il crut d'abord que c'était un éclair, mais une détonation qui ne ressemblait en rien au tonnerre ébranla la forêt. Hannebard s'arrêta net, se pencha en avant et vit alors, à quelques centaines de pas au-dessous de lui, une explosion qui allumait un brasier dans les arbres. Il regardait mieux, reconnut, à la lueur, l'endroit où il se trouvait et put distinguer ce qui se passait exactement. C'était sa cabane qui sautait en morceaux
et qui flambait comme une torche. Du coup, sa peur tomba. Il courut jusqu'à la lisière de la forêt, s'approcha du brasier. C'était bien sa maison qui avait sauté et qui brûlait. Il n'eut pas longtemps à réfléchir pour trouver une explication. Il comprit. Ils étaient venus, une bande, du bourg, cette nuit, pour faire sauter sa cabane à la dynamite. Ils avaient combiné leurs coups et allumé la mèche en pensant que Hannebard serait dans son lit et qu'il sauterait avec le reste. Le cauchemar qu'il venait de vivre se prolongeait dans la réalité. Mais il n'avait plus peur. Son cœur se serra seulement un peu en voyant sa demeure anéantie. Puis, il attendit patiemment l'aube. Chapitre 8. Mais à l'aube, l'orage qui s'était préparé pendant la nuit éclata avec violence sur le bourg. Il dura 2 jours. Le vent soufflait avec fureur, la pluie tombait en trombe, d'énormes éclairs sillonnaient le ciel. La foudre, en tombant, allumait des incendies. Elle tua, sous les sapins, au pâturage, des génisses qui s'y étaient réfugiées. Le vent arrachait des arbres, renversait des cheminées, emportait des morceaux de toiture. La rivière monta rapidement, déborda, inondant les bas-quartiers du bourg. Il fallut mobiliser les pompiers et même les civils pour lutter contre le feu, évacuer les maisons, sauver les marchandises. Bien qu'on ait eu l'habitude dans le pays des gros orages, on s'inquiétait de la rudesse et de la durée de celui-ci. Les gens ne disaient plus rien de Hannebard. On se gardait de prononcer son nom. On se taisait sur l'incendie de la cabane, comme si une entente tacite était intervenue entre les habitants. On avait autre chose à faire qu'à parler de lui. On avait à se débattre et à se protéger contre les éléments déchaînés. L'électricité ne marchait plus. On devait s'éclairer aux bougies ou aux lampes à pétrole. À tout moment, le tocsin appelait à l'aide. De nouveaux incidents et de nouveaux accidents se produisaient. Le feu avait pris chez les Rouves. La maison du père Iroise s'était effondrée. Les chaumins avaient leur verger complètement abîmé. Une femme, en buvant un verre d'eau dans sa cuisine, avait été renversée par la foudre et, en tombant, elle s'était cassée la hanche. L'épicerie centrale appelait au secours, ses magasins étaient sous l'eau. On ne dormait plus. On pensait que c'était vraiment payé cher le bel été, qui, d'ailleurs, n'avait pas été si beau que ça. Enfin, au bout du 2e jour, l'orage cessa. La pluie s'arrêta de tomber. Un faible rayon de soleil filtra à travers les nuages, devenus légers. Sous cette caresse, le bourg apparut tout brillant. Une fraîche odeur d'ozone, de feuilles meurtries, d'herbes remuées enveloppa les choses. Il parut régénéré. Et la vie redevenue quotidienne continua. Mais de Hannebard, toujours pas un mot. Même quand le beau temps revint tout à fait, on n'en parla plus. C'était comme si Hannebard était réellement mort. Il n'était pas mort. Il vivait. Mais ce n'était plus comme avant. Les jours passaient, les semaines, les mois. Mais quel jour c'était ! Des jours comme s'il n'y avait plus eu de lumière pour les éclairer. Plus rien de l'allégresse des choses pour les nourrir. Et les semaines et les mois, quel temps c'était, quel triste temps. Hannebard pourtant n'avait pas changé, lui. Il vivait encore, et son printemps, il l'avait toujours là,
dans son cœur et dans sa tête. Mais ce qui avait changé, c'était les choses. Elle ne lui répondait plus, ne venait plus à lui. Il avait beau avoir les yeux bien ouverts sur les feuillages, sur le reflet du ciel, dans l'eau. Les feuillages se dérobaient, mouraient dans une indifférence froide. Le reflet se perdait dans la vase. Il avait beau marcher encore, sourire. Le terrain se dérobait sous ses pieds, les collines se durcissaient, les pentes n'avaient plus d'aide à lui offrir. Il avait beau sonner, ses cloches, ses pauvres cloches, rendaient des sons vides. Et l'automne vint, et l'hiver, et la neige, et puis des fleurs nouvelles de nouveau. Étaient-elles encore des fleurs? Et l'hiver, pourquoi l'hiver revenait-il si vite? Et comme il durait longtemps, et comme tout était gris, était noir sous la pluie, il ne pouvait plus savoir ce qu'il vivait. Des visages, il n'en voyait plus, ou s'il en voyait, ils étaient fermés comme des murs. Des paroles humaines, il n'en entendait plus. Il y avait autour de lui le silence, le désert. Il se promenait dans la nature comme une cloche désaccordée. Et le son qu'il rendait, qu'il donnait, ne touchait rien, ne heurtait rien. Mais le plus dur, c'était encore de ne plus rien savoir de Bridille. Elle était loin, loin. On l'avait écartée de lui. Il ne pouvait savoir où elle était. Il la voyait en pensée, loin, très loin, perdue dans une brume froide, comme une petite lampe. Une toute petite lampe qui tremblotait, qui s'éteignait par moments. Il avait peur qu'on lui fît du mal, il souffrait. Il savait bien qu'elle ne se détacherait pas de lui, mais elle était loin, si loin. Le printemps, son printemps, flambait quelquefois dans sa tête comme une torche. C'était comme si la folie allait le prendre, comme si le rêve, rien que le rêve, lui devenait la seule réalité, le monde vrai, celui qui vous étreint. Oh, cette petite lampe là-bas, dans le brouillard, comme elle était loin, comme elle était faible, et comme elle faiblissait encore à mesure que le temps s'avançait. Et il s'avançait le temps. Bientôt, il n'y avait plus que de la neige. Bientôt, plus que de la pluie. Bientôt, plus que de la boue. Et tout marchait si vite, dans cette longue attente devant les arbres sans frissons, des nids sans oiseaux, des cloches sans mélodie. Et tout était si dur, si vieux dans ce long silence qui recouvrait le monde d'une neige encore plus épaisse, plus livide et plus tenace que l'autre. Il vivait encore. Il vivait dans une angoisse qui n'avait pas de fin. Dans une prière qui tournait sur elle-même et se nourrissait de son propre désespoir. Il logeait chez Cherbet. Il restait silencieux, se contenait, s'effaçait. Il comprenait que sa présence pouvait attirer des désagréments à son ami. Il était prêt à s'en aller à la première menace ou au premier signe d'impatience. Mais Cherbet tenait bon. Il le gardait. Le protégeait de son toit et maugréait pour lui contre le bourg. Il finit par s'adapter à ce nouveau silence et à cette nouvelle manière de vivre. Ce qui l'indignait le plus, c'était que Hannebarde n'ait pas voulu porter plainte au sujet de la cabane. Puis le temps passa, puis Cherbet finit par se calmer sur ce point aussi. Hannebarde se taisait. Une fois seulement, plus tard, il se plaignit à son ami. J'aimais mieux Cherbet quand ils venaient avec leurs poings tendus, leurs injures, leurs dynamites. Au moins, on les voyait, on les sentait. Tandis que maintenant, le vide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre le vide ?
Thank you.
Chapitre 9. Ce jour-là, le maire convoqua Hannebarde dans son bureau. Bien du temps avait passé depuis le soir où la voile rouge avait traversé le bourg, et c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un semblait de nouveau s'intéresser au sonneur. « Je dois vous faire part de la décision qui a été prise par le conseil municipal, » dit le magistrat. « Malgré l'espoir que nous avions que le temps ferait son œuvre sur les événements que vous connaissez, nous avons été amenés, à la suite des démarches réitérées de tout un groupe de citoyens, à prendre la décision de vous donner votre congé. Votre présence dans notre commune est considéré comme intolérable aux yeux de la plupart de mes concitoyens. En quittant le bourg, nous vous engageons à vous en éloigner le plus possible. Pour ma part, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer d'arranger les choses. Je regrette pour vous que mes efforts n'aient pas abouti. Il est de mon devoir de sauvegarder la bonne entente dans le ménage communal. C'est pourquoi je m'incline devant la décision prise. À votre tour de faire preuve de bonne volonté. Vous pouvez aller. » Hannebarde reçut la nouvelle sans sourciller. Il préférait cette solution à la guerre sourde larvée qui existait entre le bourg et lui. Il avait encore de bons bras. Le travail ne lui faisait pas peur. Ce qui le peinait le plus était de quitter ses cloches ainsi. Il n'avait rien à ajouter aux paroles du maire. Il se leva et se dirigea vers la porte. C'est à ce moment que quelqu'un le rappela. « Un instant !» fit une voix. Hannebarde, en se retournant, reconnut le pasteur, assis dans un fauteuil un peu en retrait. Hannebarde, docilement, revint sur ses pas. Nous avons, grâce à Dieu, réussi à réparer vos fautes, dit le pasteur. La jeune fille, que vous aviez entraînée dans le mal, nous avons pu la relever. Son mariage sera célébré demain, dans notre vieille église. Et, comme ce sera vous qui sonnerez encore, pour la dernière fois, il est vrai, je tenais à vous avertir que toutes nos dispositions sont prises pour le cas où votre service laisserait à désirer. Nous comptons cependant sur ce qui peut rester de bon sens en vous pour que tout se passe normalement. Inutile, n'est-ce pas, d'ajouter un nouveau scandale à votre actif. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Hannebarde était debout, frémissant dans tout son être. Il aurait pu à la fois gifler l'homme de Dieu et lui donner le baiser de la reconnaissance. Il se contint, cependant, et murmura, déjà absent, un vague « Vous pouvez y compter », puis disparut rapidement. Une joie immense l'étreignait. Sonné pour Bridille, « Sonner pour Bridie !» se répétait-il en sanglotant de bonheur. Maintenant, dans sa niche, Hannebarde sonnait pour le mariage de Bridie. Il sonnait comme s'il avait retrouvé d'un seul coup tous les moments les plus poignants de sa vie. Il les avait retrouvés, depuis la petite tache rouge et blanche et bleue qui jouait sur le sentier, jusqu'à la voile rouge qui avait fleuri le bourg un soir. Il les avait retrouvés. Il sonnait, les mains dures, le dos courbé, le visage frémissant, de toute la force de son corps, de toute la force de son âme. Il tirait sur sa corde, et les cloches à coup sûr devaient ébranler la voûte des cieux. Il avait vécu dans une violence froide, dans une méfiance hostile, sourde, qui lui sautait à la gorge et cherchait à l'anéantir à petit feu. C'était fini. Il s'épanouissait de nouveau. Son élan réveillait de nouveau les échos du monde. Il sentait, soudés à sa force, à son rythme, les choses qui lui revenaient, les arbres, la terre, le ciel, l'eau.
une grâce puissante, une reviviscence de tous ses sentiments profonds rayonnait en lui. Jamais encore il n'avait connu un tel moment de plénitude, de divination, d'embrasement. Son visage, taillé comme dans du roc, resplendissait. Il ne voulait rien savoir de ce qui se passait au dehors, de la noce, de la cérémonie, de la curiosité du public. Il restait fermé en lui-même comme une montagne. Il sonnait pour cette chose inouïe, pour ce printemps retrouvé qui réunissait son âme à celle de Bridille. Ah, ils avaient cru là-bas, dans le bureau du maire, l'achever en le forçant à sonner pour le mariage de Bridille. Ils n'avaient donc jamais rien aimé, ces messieurs, jamais rien compris à rien. Ils ne se doutaient pas qu'ils lui avaient au contraire rendu la vie qui palpitait, plus chaude, plus profonde que jamais en lui. Une grâce éperdue le pénétrait, le soulevait. Il sonnait sa dernière, son ultime sonnerie, et c'était pour Bridille qu'il sonnait. Il sonnait, et qu'on entende bien dans le bourg et dans les campagnes, dans les villages et dans la plaine, que tous entendent bien, les hommes et les femmes, et les arbres et les oiseaux, et toutes les bêtes à la ronde, et le ciel aussi haut, aussi loin qu'on peut le voir, que tout l'univers entende bien, que c'était pour elle, pour Bridille, que Hannebarde sonnait. Les cloches, soulevées par une force inconnue, lancées à plein battant l'une sur l'autre, tournaient sur elles-mêmes, criaient, priaient. Ah, elles criaient cette fois vraiment, les cloches affolées, tournoyantes, éclatantes. Elles criaient la joie, l'amour, le bonheur. Elles criaient le triomphe, le miracle étonnant du cœur de Hannebarde, de son cœur crucifié dans sa vieille poitrine de géant, de son cœur piétiné, bafoué, douloureux, débordé, étoilé et vainqueur. Elle le criait, les cloches, à ceux du bourg. Elle le criait tout ce qu'il n'avait pas voulu entendre. Elle criait tout ce que Hannebarde leur apportait de grand, de fort, de tonique, toute sa tendresse transfigurée, toute sa douleur fraternelle, tout ce que ses silences avaient eu d'espoir et de beauté, tout ce que son sourire avait emprisonné de bonté et de simplicité, et les élans de son corps régénéré vers des rythmes plus nets, et l'essor de son âme vers des mots plus purs. Elle criait les cloches, le ciel, la terre, les radieuses clartés du matin, les plantes emperlées de rosée bleue, les sources vives, les sèves généreuses, les murmurantes nuits, criblées d'astres étincelants. Elle criait l'éternelle lutte de la vie jaillissante et des solitudes mesquines enfantées par nos douleurs, nos crimes, notre épaisseur. Elle criait les cloches et, tout à coup, elles ne crièrent plus. La tête de Hannebarde tournoya à son tour. La tête d'abord, puis le clocher, puis la niche, puis le monde. Hannebarde s'écroula, le cœur rompu. Il était sur les genoux, la face contre le sol, un mince filet de sang aux lèvres. La sonnerie s'éteignit brusquement. Il y eut un moment de silence, plus terrible que tout ce qu'on aurait pu entendre de cris ou de gémissements. Dans l'église, le cortège nuptial s'était arrêté devant l'autel, frappé de stupeur. Bridille, un instant, vacilla sur elle-même, puis, quittant tout, s'élança vers la sortie. Elle connaissait le chemin. Elle se précipita dans la niche du sonneur. Il était là, écroulé sur le sol, sans mouvement, mais les mains encore crispées sur sa corde. « Hannebarde !» criait Bridille. « Hannebarde, mon Hannebarde !» Elle se jeta sur lui, s'efforça de le relever, renversa sa tête dans ses genoux. « Hannebarde, Hannebarde, mon Hannebarde !» Son cri était si aigu, si déchirant, qu'on l'entendit jusqu'au plus profond du bourg, et ceux qui l'entendirent ne devaient plus jamais l'oublier. Elle se pencha sur lui, l'appela encore. Alors, sur le visage pâle, infiniment pâle du moribond, un frisson courut, une paupière se souleva, et une petite lumière lointaine vacilla une seconde au fond de la prunelle. Il remua les lèvres. Elle se pencha, tout contre son visage, écouta, haletante. Il murmurait dans un souffle. Prédit, le printemps, c'est le printemps. Le souffle retomba. La paupière se referma et la tête enfouie dans les genoux du Bridille. Hannebarde mourut.